J'ai à cœur de partager ce matin sur cette question, qui est notre Dieu? Parce que je pense que c'est important que nous puissions nous situer en tant que chrétiens sur l'identité de notre Dieu. Parce que ce que notre Dieu est, c'est ce que nous, nous sommes. Puisque c'est notre Père. Les enfants ressemblent à leurs parents. C'est Jean-Paul qui m'a toujours fait rire avec une expression qu'il aime bien. Il dit toujours, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. C'est un peu quelque chose comme ça qu'il dit parfois. Et ça me fait rire, parce que c'est vrai, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Quand vous voyez la pomme quelque part, il y a beaucoup de chances qu'il y ait le pommier dans les parages. Nous sommes les enfants de Dieu. Quelque part, nous sommes là à lui ressembler. Mais je suis conscient que je ne peux pas vous parler de Dieu en 30 minutes ou 40, même en 50, puisqu'il y a des bibliothèques entières, des bibliothèques, des gens qui ont consacré toute une vie juste pour parler de Dieu. Des gens qui ont dit des tas de choses et qui ne se sont pas fatigués, même à l'âge de la retraite, qui ont dit, je n'ai pas encore terminé de parler de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce matin, je voudrais que nous fassions la visite de Dieu à travers un texte de l'Ancien Testament, un psaume. Et nous allons voir là des éléments qui nous ouvrent les yeux sur qui est notre Dieu. En fait, René et moi, nous avons à cœur, à un moment donné, de reprendre un peu la profession de foi. Vous savez que vous en avez une profession de foi. Vous savez ça? Parce que peut-être que on l'ignore, mais enfin non, je sais que vous savez. Donc nous avons une profession de foi. Et nous avons des articles dans notre profession de foi. Et je voulais justement aujourd'hui introduire avec la profession de foi, et notamment le premier article qui dit « Nous croyons en un seul Dieu personnel, créateur des cieux et de la terre, esprit, lumière, amour, vérité, éternel, tout-puissant, infaillible, immuable, infiniment sage, juste et saint. Ce Dieu existant éternellement en trois personnes de même nature se révèle dans la Bible comme Père, Fils et Saint-Esprit. » Ça, c'est le premier article de notre profession de foi. J'aimerais, à travers le psaume 50, justement présenter ce Dieu d'une manière plus pratique, du point de vue en tout cas d'une prédication. Que le Seigneur nous accompagne. Prions d'abord. Seigneur, je pense à tous ces scribes, à tous ces écrivains, à tous ces massorètes, à tous ces hommes, à ces copistes, qui chaque fois qu'ils voyaient ton nom dans le texte qu'ils étaient en train de recopier, s'arrêter et se mettre à genoux et te louer et prier parce qu'ils avaient la crainte de ton nom. Je pense à ce commandement que tu as donné où tu dis que ton nom ne doit pas être pris en vain. Je pense à ta grandeur, à ta puissance, à ta gloire. Et j'aimerais ce matin, Seigneur, en toute humilité, parler de toi, en essayant de rendre concrètement des images de toi qui nous permettent à nous tous de vivre avec toi et d'aller de l'avant avec toi. Merci de conduire cette méditation et d'éveiller dans nos cœurs la conscience d'un Dieu vivant, un Dieu qui vaut la peine d'être respecté, d'être suivi, d'être aimé. Merci de nous conduire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Psaume 50. On va lire tout le psaume. Psaume d'Asaph. Asaph est un chef de chantre. C'est un chef de chorale. Vous savez que dans le temple, il y avait plusieurs chefs de chorale en fonction des groupes qui devaient présenter le chant devant Dieu, et Asaph, c'est un des chefs de chantre. Cet homme est remarquable. On parle souvent de David comme étant un des auteurs des psaumes le plus connu. On connaît moins Asaph, et pourtant cet homme, il y a beaucoup de choses à dire de lui. Mais ce matin, nous allons plutôt nous concentrer sur le texte. Et peut-être un jour, si le Seigneur donne la grâce, on pourra peut-être justement, en parlant de la musique, du travail de la musique dans l'Église, si un jour on en vient à en parler, on va sûrement et certainement alors parler de la personnalité d'Asaph, du travail qu'Asaph a fait, mettre ça en rapport avec le travail de musique dans l'Église. C'est impressionnant comme on peut apprendre des choses. Psaume d'Asaph. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi, toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je te le dirais pas, car le monde est à moi, tout ce qu'il renferme et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce me glorifie. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Il y a plusieurs façons d'aborder ce texte. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions l'aborder en découvrant qui est notre Dieu. La question de Dieu est une question, bien sûr, je vous ai dit, fondamentale pour notre identité. Et dans ce texte, j'aimerais peut-être que nous puissions le voir tout doucement avec ce qui se dégage. Qui est notre Dieu au regard de ce psaume 50? Dans ce psaume, Dieu est un Dieu unique. Il ne s'agit pas de plusieurs dieux. C'est un seul Dieu. Ça aurait été intéressant de voir tout le jeu de mots qui sont écrits en grec. On utilise plusieurs mots. On utilise Yahweh. On utilise Elohim. Ce sont les mots qui reviennent le plus fréquemment. Peut-être qu'on en parlera un peu brièvement. Mais il s'agit bien du Dieu unique, du Dieu seul. Il ne s'agit pas de plusieurs dieux. Et vous savez que dans la Bible, Dieu se présente comme un Dieu unique. Peut-être deux textes pour nous renforcer à ce niveau-là. Vous voyez comment Dieu lui-même dit de lui-même. Ésaïe 43, regardez la fin du verset. Je vais lire tout le verset 10, mais c'est à la fin surtout qu'on voit ce que Dieu dit. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. Ça, c'est Dieu. Je suis le seul vrai Dieu, le Dieu unique. Voyez, verset 11, c'est moi, moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas d'autre salut. Seul moi, l'Éternel, apporte le salut. Deuxième texte. Et il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai pris quelques-uns simplement pour déjà tout à fait fixer les choses. Nous parlons de ce Dieu unique, le Dieu d'Israël, notre Dieu. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, donc ça c'est Ésaïe 44:6. L'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Dieu a justement cette affirmation forte qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. C'est de ce Dieu-là que nous allons parler aujourd'hui. Nous les chrétiens, donc, nous sommes des monothéistes. C'est-à-dire que nous croyons en un seul Dieu. Nous ne sommes pas des polythéistes qui croient en plusieurs dieux. Dans ce texte, le Dieu vivant, parce que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui parle. Vous voyez, ça commence avec justement le début du psaume qui dit justement « L'Éternel, Dieu l'Éternel parle ». Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui parle et qui agit. C'est un Dieu unique. C'est un Dieu ici qui se présente comme le juge de son peuple. C'est le thème central de ce psaume. Dieu se présente comme le juge de son peuple. Un juge dont la colère ressemble à un feu dévorant. Et dont la terreur ressemble à une violente tempête. Mais un des paradoxes de ce texte, psaume 50, c'est que nous avons à la fois un Dieu qui se présente comme le juge de son peuple, et pourtant, ce psaume se termine avec un Dieu de salut, un Dieu de grâce qui offre la grâce, qui offre le salut. Comment concilier les deux? Comment comprendre à la fois ce Dieu qui est un Dieu en même temps juge et puis ensuite un Dieu qui offre quand même la grâce, qui gracie, qui offre le salut, qui offre la délivrance? Comment concilier les deux? Je vais peut-être aller méthode par méthode parce que je veux juste que nous découvrions qui est ce Dieu et progressivement aussi répondre à cette question-là. Comment concilier ces deux traits de la personne de Dieu? Dans les 6 premiers versets, Dieu se présente comme un juge qui veut juger son peuple. Et pour le faire, il convoque son peuple pour lui prononcer la sentence. Il le rassemble depuis la montagne de Sion. Vous savez que c'est de là que Dieu s'exprime. C'est le lieu de l'expression de sa divinité. Et justement, quand je vous parlais de jeu de mots qui existe dans le texte, c'est que pour parler de Sion, quand on dit de Sion, Dieu resplendit, ça c'est le verset 2, eh bien on ne parle pas à ce moment-là de Dieu en tant que Yahweh, mais en tant que Elohim. Alors, ceux qui connaissent un peu la différence entre Yahweh et Elohim, Yahweh c'est vraiment le Dieu qui est le Dieu d'Israël. Le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu dans l'histoire d'Israël. Elohim, c'est plutôt le Dieu qui regarde vers les autres nations et qui porte un regard de jugement, qui porte un regard de jugement et de domination sur le reste du monde. C'est un jeu de mots. Pourquoi? Parce que le défi dans ce texte est de dire, mais finalement, à qui est-ce que Dieu s'adresse? Et ce texte, ce verset 2, montre que Dieu ne s'adresse pas simplement aux Juifs. Il s'adresse à tous les peuples du monde, à toutes les nations, même aux générations futures. Il s'adresse à tous les hommes. Et voilà que Dieu convoque son peuple et il veut les rassembler. Dieu dit, je ne veux pas me taire, je ne garde pas silence, je ne reste pas en silence. Verset 3, je vais parler, je vais m'exprimer. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas laisser le mal se développer au milieu de son peuple. Dieu veut dénoncer. Dieu veut dénoncer ce qui ne va pas. Dieu ne se tait pas. Mais pourquoi est-ce que Dieu agit de la sorte avec son peuple? Pourquoi est-ce que Dieu ne laisse-t-il pas tomber quand il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi? La première réponse, et c'est ça la première caractéristique de notre Dieu que je voudrais que nous puissions découvrir à travers ce texte, parce que Dieu est juste. Dieu est juste. C'est un Dieu de justice. Et dans l'exercice de cette justice, il est prêt à sanctionner via les jugements. Dieu ne laisse pas le mal, il n'est pas complaisant par rapport au mal. Mais face au mal, Dieu réagit et il donne ses jugements. Voilà le premier trait qui se dégage de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste. Bien sûr, je sais bien que quand je dis le mot justice, c'est un mot très compliqué. C'est un mot chargé de sens. C'est un mot qui a une signification, ça a plusieurs sens en même temps. Mais j'aimerais peut-être nous fixer d'abord avec un premier sens du mot justice. Peut-être qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, hein, et tout le reste sera donné par-dessus tout », des textes comme ça, pour dire simplement que la justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui est conforme à la volonté et aux normes de Dieu. C'est ça la justice. Quand j'agis conformément à la volonté de Dieu et conformément aux normes de Dieu, conformément à ce que Dieu demande, aux règles que Dieu a établies, etc., je fais la justice de Dieu. Je suis droit aux yeux de Dieu. Bien sûr, nous savons aussi que la justice, c'est aussi ce que Dieu déclare. Tout ce que Dieu dit est juste. C'est un juste législateur. Un législateur, c'est celui qui fait la loi, qui peut dire à partir d'aujourd'hui, telle chose devient comme ça. Nous voyons ça à Namur, et je m'amuse toujours à dire à mes enfants, ces écolos. Pourquoi? Parce que chaque fois, vous allez rentrer sur une rue, tout d'un coup, le soir, ils ont décidé de changer de direction de la rue. Vous voyez, avec la voiture, boum, vous voyez, sens interdit, tout d'un coup. Hier, on passait encore. Aujourd'hui, c'est sens interdit. Je dis, ces écolos. Mais rien à faire, je suis obligé de respecter ça, parce que c'est la règle. Dieu est un législateur, il peut changer sa loi, il peut décider de nouvelles lois, il peut mettre en place des choses qui hier n'étaient pas les mêmes. Ça, c'est encore l'application de sa justice. Dieu est un Dieu juste. Peut-être juste s'arrêter un petit instant pour considérer le petit chemin que nous venons de parcourir. Nous découvrons que notre Dieu est un Dieu unique, un seul. Il est un Dieu unique. Et il est le seul Dieu. Il se présente et dit, moi, je suis le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous découvrons aussi que c'est un Dieu qui est vivant. Il agit, il parle, il s'exprime. Quand il est fâché, il l'exprime. Quand il n'est pas content, il le dit. Quand il est content, il le dit. C'est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un principe philosophique qui traîne dans l'espace là-bas, quelque chose qu'on imagine ou quelqu'un qui a lancé les choses et qui est allé se reposer, se cacher. Il est actif encore. Nous découvrons aussi que c'est un Dieu juste, un Dieu qui ne laisse pas passer les erreurs et les fautes. Et peut-être c'est que ce matin, peut-être avant d'aller plus loin, est-ce que c'est vraiment ce Dieu qui correspond à celui que tu sais ? Que je sais. Si oui, est-ce que j'applique sa volonté dans ma vie? Est-ce que je m'intéresse aux normes de Dieu pour les vivre? Est-ce que je fais la justice de Dieu? Est-ce que je vis selon ses normes? Vous savez, j'aime une expression qui dit que Dieu n'est l'ami de personne. Dieu n'est l'ami de personne. C'est-à-dire que si je fais une faute, je commets un péché, c'est pas Dieu ne va pas dire, mon ami, je t'aime bien, alors toi, je ne regarde pas tes fautes. Par contre, toi, je te punirai. Dieu n'est l'ami de personne. Si tu commets un péché, Dieu va te sanctionner de la même façon. Dieu est sérieux avec nous. Est-ce que nous sommes sérieux avec lui? Voyons la suite du texte. Nous découvrons déjà un Dieu de justice, un Dieu qui est juste. Du verset 7 au verset 15, maintenant nous allons découvrir le contenu du jugement. Dieu a convoqué son peuple et il a convoqué parce qu'il a un jugement à leur donner. Et on va découvrir maintenant le contenu du jugement à partir du verset 7. Vous avez lu, hein, nous avons lu, hein, donc ça ne sert à rien que je le relise. Hein. Regardez. Dieu a convoqué son peuple pour lui reprocher, mais non pas les sacrifices. Il le dit clairement. Verset 8, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Non, je ne t'ai pas convoqué pour te condamner par rapport aux sacrifices. C'est quoi les sacrifices? C'est-à-dire l'ensemble des pratiques, l'ensemble des choses à faire, l'ensemble des choses que doit observer le peuple pour se rapprocher de Dieu, pour être en ordre avec Dieu. C'est ça les sacrifices. Et ça se fait, c'est ça le sens du mot sacrifice, en tout cas en hébreu, ça se fait par l'immolation des animaux. On vient avec des animaux et on demande, on fait un sacrifice, que ça soit de culpabilité, de reconnaissance ou de d'expiation, etc. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu ne reproche pas cela au peuple. Mais si vous remarquez bien, tout ce que Dieu va dire par la suite, c'est comme si, c'est moi qui apporte un élément là de réflexion, c'est comme si Dieu souligne tout doucement l'inutilité de ces sacrifices, leur caractère trivial, leur aspect, en fait, c'est pas, ce n'est important que si c'est dans un sens, et dans un sens bien compris. Alors, j'aimerais qu'on se comprenne très bien ici. Les sacrifices étaient importants, et les sacrifices étaient une pratique qui avait tout son sens, et qui avait son importance. Le but était de voir deux choses que Dieu voulait nous enseigner à travers les sacrifices. D'une part, que le péché a un prix. Le prix est un prix dur. C'est un prix qui coûte la vie. Ces animaux-là. Deux, que notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation qui est une relation où nous sommes passifs. On s'assoit, oui, je fais comme je veux, je vis comme je veux, de toute façon Dieu va me rejoindre dans ce que je suis. Non, notre relation avec Dieu est une relation où nous sommes actifs. Nous apportons des sacrifices, nous sommes conscients de la règle, nous sommes conscients de la loi de Dieu et nous venons, nous faisons tout ce qui est notre possible pour nous rapprocher de lui. Et Dieu se rapproche de nous. Vous savez que dans l'Ancien Testament, c'est aussi un des mots préférés de la Bible, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Mais ce que ce texte veut mettre en lumière, c'est le fait que, oui, les sacrifices sont utiles, mais seulement quand on a bien compris quelle est la portée spirituelle des sacrifices. Or, là, Dieu dit, il y a un reproche. Le peuple ne saisit pas encore très bien quelle est la portée spirituelle. Donc, le reproche, c'est de dire, ce n'est pas que les sacrifices sont mauvais, mais c'est le fait de ne pas voir quelque chose de plus important à travers le sacrifice. Le fait de ne considérer que ce sacrifice, de ne pas regarder la finalité spirituelle de ce sacrifice. C'est ça le reproche. C'est ça la faute. Alors, quelle est cette chose importante? Versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu, des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, invoque-moi le jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Voilà la chose profonde derrière laquelle le peuple, pour laquelle le peuple devait comprendre le sens des sacrifices. L'action de grâce. C'est-à-dire la reconnaissance profonde du fait que tout ce que j'ai, Tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans l'histoire de ma vie. Et lorsque je commence à comprendre cela, même les sacrifices que j'offre, c'est des sacrifices que j'offre eu égard au fait que je sais que je dépends de Dieu. Je viens de Dieu et je dépends de lui dans tout ce que j'ai et dans tout ce que je suis. Et parce qu'il en est ainsi, parce que je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait de moi ce que je suis, alors il en découle plusieurs choses. Il y a trois choses là. Il en découle d'abord un engagement. Le verset 14, accomplir tes vœux devant l'Éternel. Je suis reconnaissant, je suis tellement reconnaissant à mon Dieu que je m'engage à faire aussi des choses, à poser des actes qui témoignent ma reconnaissance. Je veux faire des choses pour Dieu parce que je suis reconnaissant. Deuxième chose, je vais, parce que je suis reconnaissant à Dieu, parce que je suis conscient que tout dépend de lui, je vais aussi vivre dans une dimension de la prière confiante. Je vais l'invoquer dans la détresse. Au moment difficile de ma vie, je vais lui faire confiance. Je vais compter sur lui. Je vais compter sur le fait qu'il est capable de me sortir de là parce que ma vie dépend de lui. Je n'ai personne d'autre que lui. Et une troisième chose qui en découle, c'est la louange. Parce que je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu fait, alors je développe la louange dans ma vie. Je loue Dieu. Je l'adore. Je manifeste ma très grande reconnaissance parce que c'est lui qui est à l'œuvre. C'est lui qui a fait ma vie. Louer, vous savez, c'est quoi? Louer, c'est vanter les mérites de quelqu'un. C'est dire à quel point cette personne est admirable et merveilleuse et quelqu'un d'extraordinaire. C'est dire les grandes choses que cette personne a fait. Vous savez, il y a des gens qui vous ont marqué dans votre vie. Quand vous le croisez, vous avez envie de dire à vos amis, « Voyez ce monsieur-là, grâce à lui, j'ai été dans telle situation. Lui, ce monsieur-là m'a aidé. Vous voyez cette femme-là, vous voyez cet enfant-là, vous voyez cette circonstance de vie. Vous avez envie de le dire pour que les gens le sachent. Pour que les gens sachent que c'est quelque chose qui vous a fait du bien. » Le texte nous dit, « Tu me glorifieras. Tu me glorifieras. Tu me rendras gloire. Tu manifesteras ma puissance, ma grandeur, mes œuvres. Tu diras les grandes œuvres que je fais dans ta vie. » Voilà trois choses qui viennent établir une nouvelle base de la compréhension de ce que c'est que les sacrifices. Peut-être que le peuple était dans l'erreur parce que le peuple n'allait pas, ne voyait pas derrière ces actes qui consistaient à présenter les sacrifices, ne voyait pas du tout que derrière il y avait cette finalité qui était le rapprochement avec Dieu dans un cœur reconnaissant. Au fond, quand on y réfléchit bien, quel est le Dieu qu'on découvre ici? Nous découvrons un Dieu, bien sûr, créateur. Il a dit, toutes ces choses, c'est moi qui les ai créées, je n'ai pas besoin que tu me les donnes, etc. C'est lui qui a créé cela. Nous découvrons, c'est vrai, un Dieu créateur. Nous découvrons aussi un Dieu autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous pour manger, pour se nourrir. Il n'a pas besoin de nous. Mais nous découvrons aussi et surtout un Dieu relationnel. Un Dieu qui veut établir une relation avec l'homme. La signification profonde des sacrifices, c'était d'établir une relation vivante entre Dieu et l'homme. Une relation de cœur à cœur. Mais comme notre cœur est mauvais, comme notre cœur et pécheur, c'était pas possible d'asseoir des bases de relations de cœur à cœur. Cela viendra grâce au Seigneur Jésus-Christ. Ici, donc, Dieu met en lumière cet aspect que ce qu'il veut, c'est que nous établissions une relation vivante, saine avec lui. Les intentions que Dieu dévoile, c'est un visage d'un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, qui veut fonder une famille dont il est le père, un peuple dont il est le roi, un troupeau dont il est le berger. Mais c'est vrai, on n'en est pas encore là concrètement. On est dans cette direction. Voilà, c'est une direction que Dieu prend déjà. Voilà la direction vers laquelle je vais. On n'en est pas encore là parce que le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas encore eu lieu à la croix. Nous découvrons donc un Dieu relationnel. Voyons la dernière partie du texte, verset 16 au verset 23. Dieu s'adresse directement aux méchants. Mais alors on peut se demander de quel méchant s'agit-il? Verset 16. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » De quel méchant s'agit-il? S'agit-il du méchant, c'est-à-dire de l'incroyant, de celui qui ne croit pas en Dieu et qui est dehors là-bas et qui n'aime pas Dieu? S'agit-il des nations païennes qui n'ont aucun égard à Dieu? Quand on regarde le texte, ce n'est pas ça en fait. Dieu fustige les méchants dans son peuple, au milieu de son peuple, dans le peuple des croyants. Dieu fustige quoi en fait? Il fustige leur attachement à faire le mal. Vous savez, il y a des gens qui aiment faire le mal. C'est un plaisir de faire du mal aux autres. C'est un plaisir. Bien qu'ils connaissent la loi divine, ils se complaisent avec des voleurs. Ils ferment les yeux devant les vols sans les dénoncer, sans les condamner. Ils se complaisent avec des adultères. Et Dieu seul sait, dans notre génération, combien nous faisons des bêtises avec les infidélités dans les couples, dans les familles. Combien aujourd'hui, toutes ces choses sont des choses terribles, terribles. Dieu condamne. Il condamne ceux qui sont pleins de mensonges et de médisances. Et il dit, vous avez cru que parce que je me suis tué, que je vous ressemblais. Non, je ne vous ressemble pas. Je ne ressemble pas à ça. Dieu n'aime pas visiblement le péché. Visiblement. Il n'est pas très, 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 très d'accord avec le péché. Je ne dirais pas même très d'accord. Il est vraiment opposé au péché. Nous découvrirons plus tard que c'est le péché qui a entraîné Jésus à mourir sur la croix. Dieu promet aux méchants une fin dramatique. Je viendrai à toi. Verset 21. Voici ce que tu as fait, je me suis tué, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et un avertissement, prenez-y garde, verset 22, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Pourquoi est-ce que Dieu, visiblement, n'aime pas le péché? La réponse, toute simple, c'est parce que Dieu est saint. Nous découvrons une autre caractéristique de Dieu. Il est saint. La sainteté, voilà encore un autre mot pas facile à définir. Décidément, j'ai pris vraiment pas le bon texte pour dire les choses. Vous imaginez que si je devais parler avec des théologiens, cette prédication, je le ferais pendant des heures et des heures et des heures parce que il y a beaucoup de choses à relever avec les mots. Mais j'aimerais simplement dire Deux, trois mots sur la sainteté. La sainteté, c'est la consécration. Le fait d'être mis à part. Le fait d'être sans mélange avec le péché, avec la chair, sans compromis avec le mal. Et j'aime beaucoup le mot consécration, parce que le mot consécration nous rend à notre place véritable. La consécration sous-entend l'idée qu'on prépare des instruments sacrés qui étaient au temple, pour qu'ils soient propres et qu'on puisse les utiliser. C'est ce que nous sommes, en toute humilité, des serviteurs, mais des instruments entre les mains de Dieu pour servir, mais des instruments qui doivent veiller à leur propreté, à leur disponibilité. C'est ça la sainteté, c'est se mettre dans l'état de disponibilité pour être utilisé par le Seigneur. Être dans l'état de propreté au niveau spirituel pour que si Dieu a besoin de nous, il nous trouve pour nous utiliser. La sainteté, c'est un état spirituel. Dieu est saint. Alors, je vais terminer parce qu'il faut quand même qu'on termine. Hein. Sinon, le pauvre Gérald va se dire, ça y est, il m'a puni, lui. Hein. On va atterrir. Mais alors qu'on s'attend à ce que le jugement de Dieu soit tac, avec des sanctions et des sanctions qui vont être exécutées, qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte? Tout d'un coup, la fin du jugement, au lieu d'avoir un jugement, on a une exhortation, on a un conseil, on a un encouragement. Waouh! Donc, du jugement, le Dieu du jugement, nous avons évolué vers le Dieu de la justification. Au lieu d'un verdict pour le jugement, on a plutôt une exhortation, un encouragement. Comment comprendre ces deux traits? Comment comprendre ces deux choses? Il faut savoir que le Dieu juste et saint est aussi un Dieu d'amour et de grâce. Celui qui veut établir une relation vivante avec l'homme, parce qu'il aime l'homme. Mais c'est un Dieu qui n'accepte pas le péché. C'est un Dieu qui n'accepte pas le mal. Mais c'est un Dieu qui veut justifier celui qui fait le mal. Qui veut le déclarer juste. Qui est notre Dieu? C'est un Dieu unique, vivant toute éternité. Un Dieu puissant, le Créateur. Il est juste et il est saint. Nous n'avons pas tout dit de lui en disant tout ça, vous savez, mes amis. Et nous n'avons pas terminé tout l'article de cette profession de foi. Mais ce matin, avec le peu que nous avons, nous allons continuer, si Dieu le permet, encore prochainement. Mais avec le peu que nous avons ce matin, allons chez nous, réfléchissons à notre relation avec Dieu. Qui est-ce qu'il est pour nous? Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui est juste et saint. C'est un Dieu qui est un Dieu d'amour. C'est un Dieu créateur. C'est un Dieu qui veut établir une relation vivante avec nous, avec le pécheur que nous sommes, bien sûr, mais sans le péché. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce beau psaume que j'ai eu vraiment du plaisir à découvrir et à méditer. Merci pour ce que tu permets que je puisse partager. Seigneur, continue le travail que tu as commencé dans le cœur des uns et des autres, dans le cœur de nous tous, Seigneur, et permets que ton image suscite de notre part une révérence, un respect, et aussi un engagement plein de reconnaissance pour travailler pour toi. Merci de susciter en nous une passion de toi. Au nom de Jésus. Amen.